C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur Jean Genet, écrivain 1910-1986. Œuvre Notre-Dame des Fleurs 1943. Personnage Louis Culafroy dit Divine. Notre-Dame des Fleurs est un roman de 1620 publié au XXe siècle. Un roman baroque à proprement parler. Si je me tiens à la définition de l'Encyclopédia Universalis, né au XVIIe siècle, le roman baroque est un roman sentimental et d'aventure, aux accents champêtres ou merveilleux, foisonnant d'exubérance et de rebondissements. Nous y sommes. Urbain au lieu de champêtre et exubérant à rebondissements, merveilleux, sentimental. Le merveilleux commence dans le lieu où l'histoire se passe. Le personnage de Divine vit à Montmartre, tout en haut, au-dessus d'un cimetière, ce qui est une sorte de féerie. La définition de l'Encyclopédia Universalis est courte dans la mesure où elle pourrait s'appliquer à, je ne sais pas moi, les mystères de Paris de Gensu. Ce qui définit un type de littérature est moins son sujet que ce que l'on appelle son style. Le baroque est une écriture baroque, ouvragée, intentionnellement poétique, comique aussi souvent. Tel ce premier roman de Jean Genet. Dans un premier roman, on recrache ses influences. Sous la surface de Notre-Dame des Fleurs, s'aperçoit partout Jean Cocteau. Cocteau a été une grande influence de Genet pour l'imagerie des matelots, mais aussi pour la façon d'écrire. Une phrase comme « À la fenêtre, les cyprès étaient attentifs » est du pur Cocteau. Évidemment, ce qu'a apporté Genet au baroque contemporain et même à la littérature tout court, c'est un nouveau type de personnage, un nouveau personnage, le travesti. Jusqu'à lui, on en trouvait très peu dans la fiction. Quand c'était le cas, c'était tout au plus au quatrième plan, dans des postures plus ou moins ridicules, puisqu'ils étaient écrits par des hétérosexuels tolérants. Notre-Dame des Fleurs est un grand roman grâce à son irréalisme. En voici un passage savoureux. Mignon passa son bras autour du cou de Notre-Dame des Fleurs. Il allait l'embrasser. Soudain, de Notre-Dame bondirent 8 jeunes hommes sauvages. Plats, ils semblaient se détacher de lui, comme s'ils eussent formé son épaisseur, sa structure même, et ils sautaient sur Mignon comme pour l'égorger. C'était un signal. Il désenlaça le cou de Notre-Dame, et le jardin était si calme qu'il, le jardin, sans rancune, pardonna. Qui est Divine dans ce deuxième volet de la trilogie des folles en littérature? Pour en parler, j'en reçois Gilles Philippe, professeur de linguistique française à l'Université de Lausanne. Il est l'un des éditeurs du volume « Romans et poèmes » de Jean Genet dans la bibliothèque de la Pléiade. Gilles Philippe, à quoi ressemble physiquement Divine?
Divine est effectivement un travesti. Je dis un travesti, mais nous allons devoir en parler au féminin. C'est un personnage qui arrive à Montmartre vers l'âge de 20 ans et qui est exubérant, c'est le mot que vous employiez tout à l'heure, c'est-à-dire extrêmement parfumé, avec des parfums vulgaires, extrêmement voyant, visible. C'est une des grandes figures de ce Montmartre imaginaire de Jean Genet, puis c'est une, effectivement, de cette troupe de folles. Hein. Elle se définit comme une dame de haute pédalerie, de ces troupes de folles qui nous rappellent, si on veut avoir un équivalent aujourd'hui, c'est un peu nos sœurs de la perpétuelle indulgence. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un drag queen, si l'on veut, à cela près qu'il y a une exaltation de la féminité, tout en ayant un discours sur les femmes et une sorte de dégoût pour le corps féminin qui est très présent chez Divine. Voilà, Divine est donc une femme, un homme déguisé en femme, mais une femme qui exalte les atours, les oripeaux que l'on peut, dans une sorte d'imaginaire collectif, prêter à une sorte de femme fatale, si l'on veut.
Alors, avant d'avancer dans l'étude du personnage, je voudrais que nous restions un peu sur les circonstances de la publication, car Genet en a publié plusieurs éditions, n'est-ce pas?
Voilà, exactement. Le roman a été écrit en prison, on le sait souvent, donc en 42 pour l'essentiel, à La Santé et à Fresnes, surtout à La Santé, et en paraît une première édition dite clandestine, donc qui est publiée effectivement dans l'entourage de Cocteau, hein, et principalement par le secrétaire de Jean Cocteau. Cette édition paraît, c'est en 44, elle est imprimée en 43, et elle donne lieu à deux réécritures, si l'on veut. La première en 48, chez l'Arbalète, l'édition de Marc Barbeza à Lyon, qui reste une édition discrète, même si ce n'est pas une édition clandestine comme pouvait l'être la première. Et puis surtout, il y a une deuxième réécriture, celle des œuvres complètes que Gallimard propose à Jean Genet au début des années 50. Donc à ces deux occasions, Genet retravaille son texte. Il va, dit-on, le censurer, c'est-à-dire qu'il va effectivement ôter un certain nombre de passages obscènes. Mais pas seulement, il va surtout l'alléger et puis il va le réécrire pour en faire une sorte de toilettage à la fois grammatical et stylistique. La plupart de nos auditeurs auront lu, s'ils l'ont lu, Notre-Dame des Fleurs en folio, et donc connu le texte par la dernière édition, hein, l'édition dite expurgée, enfin à tort expurgée. La Pléiade propose de revenir à la première édition pour tous les romans de Jean Genet, donc aux éditions dites clandestines, dites non censurées. Et voilà, pour faire simple à peu près l'histoire éditoriale du texte.
C'est-à-dire que la Pléiade revient sur l'édition Barbeza ou sur la toute première de...
Sur la toute première.
Et les différences sont considérables ou pas tellement?
Non, elles ne sont pas considérables. Si on compare à d'autres écrivains qui ont complètement réécrit leur texte, non, ce n'est pas considérable. Mais c'est suffisant pour que la couleur générale du texte soit modifiée. Si on prend la toute dernière édition, donc celle qui est en folio et celle de 51, elle est moins intense. Genet a beaucoup supprimé des adjectifs comme beau, fou, qui venaient beaucoup trop régulièrement sous sa plume. Il a aussi supprimé des métaphores, des images. Il a, disons, modifié aussi un certain nombre de mots obscènes. Donc l'édition est moins intense. On n'est pas tout à fait dans la même couleur. Pour le reste, les suppressions de passages et particulièrement de trois scènes de sexe qui étaient un peu surnuméraires, vu la place que le sexe occupe dans le roman, ne modifient pas considérablement la lecture qu'on peut en faire.
Je me trompe ou j'ai le souvenir d'avoir lu un entretien de Genet tardif, je veux dire vers la fin de sa vie, où il renie presque ces romans-là, enfin Notre-Dame des Fleurs en particulier, disant... Je donnais des gages, je faisais littéraire.
Oui, absolument. Ça, c'est la fameuse idée sur laquelle il est plusieurs fois revenu, mais tard. Donc, du coup, on doit la prendre avec des pincettes. Que ses premiers romans, et particulièrement son premier roman, donc Notre-Dame des Fleurs, auraient été écrits dans la langue de l'ennemi. C'est-à-dire qu'il s'agissait de choquer le bourgeois, parce que son idéal de lecteur, c'était le notaire de province, de choquer le bourgeois en lui proposant, sous la langue que Genet pensait être celle qu'il désirait trouver, c'est une langue absolument splendide, éventuellement archaïsante, en tout cas débordante de gages de littérarité, et de lui proposer sous cet apparat de pure littérature les pires choses, et savoir l'exaltation de l'homosexualité, du crime, de la trahison, les vertus théologales de Jean Genet. Et voilà, donc, mais c'est vrai que on lit souvent les premiers romans à partir de déclarations de Genet qui sont bien plus tardives.
Qui est en rapport avec sa politisation finale, ou vous pensez, ou
Oui, je pense, absolument. Hein, toute la fin de la carrière politico-littéraire de Genet, effectivement orientée vers des thématiques politiques de défense des opprimés, c'est la cause des Black Panthers aux États-Unis, c'est ensuite bien sûr la cause palestinienne. Du coup, il y a une sorte de contraste entre cette période à laquelle paraissent les principaux entretiens que nous avons avec Jean Genet, et puis cette toute première période qui, évidemment, n'est pas politique, est extrêmement différente, tant du point de vue de l'imaginaire que du point de vue de la rédaction et du style.
Très rapidement, un écrivain vichysois d'extrême droite qui s'appelle François Saintin, dont on a édité il y a une dizaine d'années les journaux intimes, dans ses journaux prétend qu'il a aidé, d'une façon ou d'une autre, Genet à écrire Notre-Dame des Fleurs. Est-ce qu'on sait dans quelle mesure c'est authentique?
C'est partiellement authentique. Saintin était dans l'entourage de Jean Cocteau. Hein. Et effectivement, quand c'est Jean Cocteau qui va faire quand il dispose du manuscrit de Notre-Dame des Fleurs, faire qu'il soit publié. Alors, il en confie la tâche d'abord à son propre secrétaire, Paul Morillin. Et puis, le texte a besoin d'être toiletté, hein, considérablement toiletté. C'est un manuscrit qui n'est pas tout à fait achevé. Et du coup, Saintin va effectivement reprendre le texte. Il va pas le réécrire. Hein. Nous n'avons pas tous les éléments qui nous permettraient d'en juger, mais en tout cas, il n'a pas retouché considérablement le texte. Mais enfin, il a corrigé un certain nombre de choses qui ne sont pas simplement l'orthographe et la ponctuation, hein, qui sont de Saintin sans aucun doute, même si elles restent très imparfaites, mais aussi effectivement des tournures de phrases, le choix de certains mots. Donc il a joué son rôle, mais on ne peut pas considérer qu'il soit un co-écrivain du roman.
Bien sûr. Revenons-en au personnage de Divine, si vous voulez bien. Racontez-moi, pour les auditeurs qui n'auraient pas lu le livre, brièvement l'argument du livre.
C'est très rapide, puisqu'il n'y en a pas. Exactement. On a un roman de type un peu moderniste, en ce sens que c'est un roman où il ne se passe pas grand-chose. C'est un roman qui est long, hein, qui est peut-être même trop long. Hein. Moi, je trouve que ce n'est pas sans bénéfice de lire la version folio, donc la version plus tardive qui est un peu plus brève. Il ne se passe pas grand-chose. Divine arrive à Paris, elle vide ses charmes, c'est un travelot, elle vide de sa prostitution, hein, parfois de chapardage et de petits vols. Elle rencontre un certain nombre de personnages à qui il arrive parfois quelque chose, et notamment celui qui donne son titre au livre, parce que le personnage principal du livre, c'est Divine, mais ce n'est pas Divine qui donne son titre au livre, c'est Notre-Dame des Fleurs, qui est un adolescent qui finira, après divers crimes, à la cour d'assises. Divine, il ne lui arrive pas grand-chose, elle vieillit, parce qu'elle a des amants, elle a des tristesses, et elle se détache du monde, elle devient sainte, c'est une grande thématique de Jean Genet. Elle meurt au début du livre et tout l'ensemble du récit se propose comme étant une sorte de retour en arrière, double retour en arrière sur la vie montmartroise de Divine et puis sur son enfance, puisqu'elle a, lors de différents épisodes, on a accès à l'enfance de Divine, qui est une enfance dans la campagne française.
Une chose importante chez les, vous citiez les drag queens tout à l'heure, mais peut-être aussi chez les travestis, c'est leur nom et leur dénomination. Alors il faut dire que Divine a un nom d'état civil qui est presque un calembour de mauvais goût. Il s'appelle Louis Culafroid.
Absolument. Vous savez que c'était vraiment le nom de quelqu'un.
C'était
le nom de ses camarades de classe. De même que Querelle, qu'on va avoir dans un autre roman de Genet, oui, en 47, est aussi le nom qu'il emprunte à une de ses connaissances.
Et donc, ce Louis Culafroid décide de s'appeler Divine. Il y a aussi Gabriel, Notre-Dame des Fleurs, Mignon un peu moins, mais tout ça, on sent qu'il y a une tentative de parodie,
oui,
du kitsch,
ouais,
catholique,
ouais,
non,
ouais, absolument, oui. Il y a même un des travelots s'appelle Première Communion. La grande rivale de Divine s'appelle Mimosa, alors qu'il n'emprunte pas à l'univers catholique, mais emprunte un autre registre qui est très présent dans, et très kitsch, hein, c'est le registre des fleurs. Effectivement, tout ce petit monde a pris des noms de professions qui sont tout à fait charmants. Et au moment où ces gens doivent comparaître à la cour d'assises, je dis ces gens, ça me permet de parler,
oui, oui,
puisqu'à ce moment-là, ils redeviennent des hommes.
Oui, oui.
Voilà. Donc je dégenre en parlant de gens. On les appelle par leur vrai nom. Et c'est le moment où Divine s'appelle Louis Culafroid.
En fait, ça veut dire aussi que ces travestis, en se dénommant au féminin, deviennent non seulement des femmes, mais aussi des formes de parodie.
Oui, absolument. On est entièrement dans la caricature. C'est une esthétique de l'extrême, une esthétique de l'exubérance. On est une esthétique de type expressionniste. Donc, on va avoir de l'hyperbole à chaque instant. Rien ne nous est épargné dans le roman. Et effectivement, on est dans une forme de parodie générale. Ce monde des travestis de Montmartre est une sorte de caricature, hein, de notre monde, et va servir aussi à Genet à porter une sorte de jugement sur la société dans laquelle il vit.
Il y a dans ce roman un narrateur. Est-ce que ce narrateur est Genet se mettant dans une fiction ou authentiquement Genet? C'est un peu ambigu, non?
Alors Genet est présent à deux titres dans le roman. D'abord, il y a un narrateur qui s'appelle Jean Genet, qui est en prison et qui rédige Notre-Dame des Fleurs, qui compte le développement de son récit et qui assume les contradictions du récit.
Chose assez moderniste aussi.
Oui, très moderniste, absolument. Genet est présent aussi à un deuxième titre. Alors, le premier Genet, on peut dire qu'il emprunte vraiment à Jean Genet, si l'on veut, mais de lui, on ne sait pas grand-chose. Il attend son jugement. Et donc, c'était vraiment la situation dans laquelle se trouvait Genet au moment où il écrivait Notre-Dame des Fleurs.
Mais le nom de Genet n'apparaît pas dans le roman.
Le nom de Genet apparaît.
Apparaît,
si,
ah bon,
Genet apparaît, absolument.
Ah bon, ouais.
Non, Genet apparaît, on nous donne son nom.
Et donc l'autre
versant, bien, c'est Louis Culafroy. Et le Genet prête à Divine une enfance qui a été, non pas la sienne, mais qui est fortement inspirée de la sienne, dans un petit village du Morvan. Et on retrouve effectivement de très nombreux détails biographiques de l'enfance de Genet, prêtée ou transposée dans l'enfance qui est supposée être celle de Divine dans le roman.
D'ailleurs, il y a une incidente comme ça dans le livre où il est écrit « Si de moi, je fais Divine ». Donc,
voilà, exactement.
Voilà.
Alors, Genet ne s'est jamais travesti. Hein, et du coup, il n'y a pas de... Et le thème du travestissement n'est pas présent dans le reste de l'œuvre, à part dans Journal du voleur un petit peu, mais les romans qui vont venir ensuite, donc évidemment Querelle et puis même Miracle de la Rose, etc., ne vont pas de ce côté. Mais Genève a prêté à Divine à la fois une partie de son enfance et puis quelques épisodes intermédiaires, parce que nous avons la vie de Divine à Montmartre, qui occupe l'essentiel du roman, ces quelques épisodes, les six longues parenthèses sur l'enfance de Louis Culafroy, plus tard Loup divine, plus tard divine. Et puis, il y a aussi quelques allusions à des périodes intermédiaires de la vie de divine et qui sont généralement empruntées à la vie de Jean Genet.
Et il y a tout de même une phrase qui me paraît très importante où Genet dit « Entrant en moi jusqu'à, dans ce livre-ci, entrant en moi jusqu'à n'y plus laisser de place pour moi-même. » C'est-à-dire que il renonce à son moi dans ce livre. Il fait une œuvre, même s'il y a des tavelures, si on peut dire, ou des apparitions de lui par moment, on sent bien que c'est une pure création, une pure fiction.
Ah oui, c'est pur. Ça nous est présenté comme tel. Hein. Il dit clairement qu'il invente ses personnages, que ce sont des fantasmagories qu'il projette sur les murs de la prison. Ça nous est présenté vraiment comme une œuvre d'imagination et comme une forme de délire. Hein. Et puis aussi comme... Alors, Sartre a cette fameuse phrase, c'est une épopée de la masturbation.
C'est faux. C'est faux.
Oui, c'est faux. Mais en même temps, ça dit quelque chose d'une certaine forme de lecture qu'on peut faire du texte.
Nous allons maintenant entendre Le condamné à mort, poème de Jean Genet sur Maurice Pilorge, l'assassin qu'il a connu à Fresnes et à qui il a dédié Notre-Dame des Fleurs. Il est chanté par Hélène Martin.
Sur mon cou, sans armure et sans haine, mon cou, que ma main plus légère et grave qu'une veuve, effleure sous mon col sans que ton cœur s'émeuve. Laisse tes dents poser leur sourire de loup. Oh, viens mon beau soleil, oh, viens ma nuit d'Espagne. Arrive dans mes yeux qui seront morts demain. Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main. Mène-moi loin d'ici, battre notre campagne. Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir, ni les fleurs soupirer et des prés l'herbe noire. Accueillir la rosée où le matin va boire. Le clocher peut sonner, moi seul je vais mourir. Oh, viens mon ciel de rose, oh ma corbeille blonde. Visite dans sa nuit ton condamné à mort. Arrache-toi la chair, tu escalades mort.
Gilles Philippe, dans ce personnage en personne où j'étudie le personnage de Divine dans le roman de Jean Genet, Notre-Dame des Fleurs, j'aimerais que vous me disiez, selon vous, quelle est la part de folie, dans le sens de folle, du personnage de Divine.
Divine se définit comme la toute folle, hein, ce qui nous dit déjà beaucoup de choses. La part de folie, elle est complète. On la trouve à la fois dans son langage, qui est un langage totalement artificiel. Non seulement parce qu'elle utilise le féminin pour se désigner à une époque où c'était vraiment une chose étrange, mais en plus parce qu'il y a un lexique, des images souvent empruntées à l'univers religieux qui sont détournées. Ses actions sont des actions aussi de folie. Elle se fait remarquer, hein, à chaque chose, à chaque pas qu'elle fait dans la rue, à chacune des actions qu'elle peut avoir en public. Elle est dans une sorte de provocation générale qui définirait cette toute folie qu'elle utilise pour s'autodésigner.
D'ailleurs, Genet, dans le roman, en tout cas là, moi j'ai relu la version Barbosa, donc je ne sais pas ce qu'il a fait dans la dernière édition, mais il pose une majuscule au F de folle.
Oui, parfois. Alors là, c'est vrai que les majuscules sont très très instables, ce Genet. Genet aimait beaucoup les majuscules. Ça nous a posé des problèmes, hein, parce que, pas spécialement pour Notre-Dame des Fleurs, mais pour d'autres romans où il y a vraiment, vraiment une instabilité des majuscules. Mais la majuscule, c'est une forme de soulignement, une forme d'extrême, une forme aussi de passage, une sorte de pseudo-nom propre. Et Genet aimait les majuscules. Après, il en fait un emploi qui est, même d'une ligne à l'autre parfois, qui est trop instable pour qu'on puisse vraiment en tirer quelque chose. D'autant plus que Saint-Ain est passé derrière.
Ah.
Donc voilà, et que Barbeza a passé derrière aussi. Il y a eu tout un travail aussi. Si vous avez lu la deuxième édition, ce qui est rare, hein, généralement on lit la dernière, et puis maintenant qu'il y a la Pléiade, la première, Barbeza est intervenu après Saint-Ain et a modifié le texte de façon assez sensible. Je vais juste prendre un ou deux détails. Il a supprimé des centaines de « et », la conjonction « et », mais aussi des dizaines de « donc », des dizaines de « mais ». Il a changé des pronoms. ou bien il l'a demandé à Genel Lefer, mais en tout cas il a lui aussi modifié la couleur du texte, qui est un petit peu moins discontinu que ce que nous avons dans la toute première version.
Alors cette folie de Divine se déporte sur sa manière générale de parler. Voici une phrase du livre. Elle avait la pudeur des épithètes masculines appliquées à elle-même. Jamais elle n'eût osé dire sans rougir « ma bite était braquée ». L'argot, pas plus que les autres folles, ses copines, Divine ne le parlait. Parce qu'elle vit dans un milieu argotique.
Elle vit dans un milieu argotique. Je n'ai fasciné par l'argot. Il a une relation à l'argot qui est assez complexe. Il y a beaucoup de mots d'argot dans le texte.
Oui.
Je n'étais pas très fort en argot. Et je crois que c'est Saint-Ain qui le dit d'ailleurs. Il confond souvent des mots. Il y a une confusion qui me vient en tête comme ça. Il confond morlingue et sorlingue, c'est-à-dire le porte-monnaie et le couteau. Il n'aimait pas l'argot. Il n'aimait pas l'argot pour les raisons qu'on a dites tout à l'heure, à savoir qu'il veut parler aux bourgeois dans la langue du bourgeois, à l'ennemi dans la langue de l'ennemi. Il est séduit par Céline, mais il ne veut absolument pas refaire du Céline. Il y a un côté populaire, populiste chez lui, mais l'argot lui-même est détourné. Donc on va avoir un argot artificiel qui emprunte aux cryptonymies d'époque, aux javanais, aux louchébèmes, etc. Tous ces argots aussi des voleurs, l'argot de l'armée. Tout cela est joyeusement mélangé sans aucune ambition réaliste. Mais oui, c'est un roman qui fait sa place à cela pour faire le contraste avec d'autres langues, et notamment la langue de la religion, la langue du sublime, la langue de la littérature qu'il mêle dans son shaker.
Est-ce que tout ça n'est pas une manière de supporter le mépris alors adressé à l'homosexualité? Voici une phrase du livre, Gilles Philippe. Je pourrais, tout aussi bien qu'elle-même me le fit, confier que ce mépris que je supporte en souriant ou riant aux éclats, ce n'est pas encore et le sera un jour par mépris du mépris, mais pour n'être pas ridicule, pour n'être pas avili par rien ni personne, que je me suis moi-même mis plus bas que terre.
Oui, c'est vrai. Non, c'est absolument ça à voir. Genet règle des comptes avec la société. Il dit détester cette société qui l'a rendu malheureux comme il l'est, qui lui a eu le sort qui a été le sien, donc celui d'un enfant abandonné et confié à une famille d'accueil et vivant à l'école le mépris qu'avaient les enfants qui étaient différents. Tout cela est un peu exagéré, bien sûr. Il a été confié à une famille d'accueil qui était très aimante, il était lui-même très bon élève.
Ouais.
Mais il n'a pas eu l'enfance d'une splendeur dont il rêvait. Parmi les contes qu'il règle, il y a aussi effectivement le sentiment du mépris envers les homosexuels. Et une des premières scènes du roman, d'ailleurs c'est peut-être même la première scène, Divine arrive à Montmartre et puis on voit que c'est un travesti. Et elle est traitée de pédérasque par l'un, elle est traitée de chochotte par l'autre. Et on s'arrange pour qu'elle disparaisse de chez Graff, le grand café Montmartre, le plus vite possible. Oui, ça commence par une scène de mépris.
Alors, il combat ça aussi, on peut dire que c'est le roman de la Verge, d'une certaine façon, parce que le sexe masculin est là partout, de manière parfois féerique. Il a une manière de singulariser un personnage, je ne sais plus lequel, peut-être mignon, en donnant les mensurations de son sexe,
oui,
par
absolument.
Exemple.
Oui, absolument. Les gens qui l'ont lu en folio n'ont pas ça. Donc non, parce que ça fait partie des choses que je n'ai
ça fait supprimé
des choses que je n'ai à supprimer. Dit-il à la demande de Gallimard, mais en fait, il avait peur qu'on prenne le roman comme trop pornographique.
Mais ça n'allait pas du tout.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que Jean Genet a pris une feuille, il a écrit trois descriptions qui sont en fait des pastiches, vous savez, de ces portraits anthropologiques qu'on faisait quand on arrivait en prison. Donc on avait les mensurations du prisonnier qui était à côté de sa photographie. Donc là, il pastiche cela et il nous donne les mensurations, donc la taille, le poids de trois de ces personnages, Notre-Dame des Fleurs, Mignon et Sorki. Et bien sûr, ça finit par les mensurations de très impressionnantes de leur sexe.
Une autre manière de provocation de Divine et de Genet dans ce livre, c'est aussi la merde, employant le mot. C'est à la fois,
oui.
c'est le roman du Miozzotti et de la merde.
Exactement, oui, c'est le roman des contrastes. C'est la base de l'esthétique de Genet, c'est ce qu'il revendique à nouveau tardivement, d'annuler les contrastes en mettant ensemble les choses les plus invraisemblables. J'ai plus de scrupules que vous.
Allez-y.
À choquer les oreilles de nos auditeurs, mais il dira qu'il a chié ses poèmes de la même façon que Divine dit qu'elle a été chiée par sa mère.
Alors, tout ça est vraiment pas dans une intention pornographique, à mon sens. Et pour revenir à cette idée de folie, il y a aussi quelque chose de spécifique qui est l'humour folle. Mmh. Et que Genet capte très bien. Et par exemple, voici ce bref passage. Se parlant de Mignon, Divine dit, joignant ses mains en pensée, je l'adore. Quand je le vois couché à poil, j'ai envie de dire la messe sur sa poitrine.
Absolument. Alors, le blasphème et même surtout le sacrilège est très présent dans l'imaginaire de Jean Genet, surtout dans Notre-Dame des Fleurs. C'est moins vrai pour les romans qui vont venir. L'épisode central du roman, central au niveau des pages, c'est la profanation de l'hostie par le jeune Culafroy dans l'église de son village. On va adorer quelqu'un, adorer un amant, est toujours chez Genet inspiré de l'adoration eucharistique. Et le rituel de la messe est extrêmement présent dans l'imaginaire de Genet. On va aussi communier les photographies de ses amants. Il existait d'ailleurs autrefois des images à communier, des images pieuses à communier. Genet se souvient de ce rite et on va le retrouver dans Notre-Dame des Fleurs. Oui, c'était une sorte d'humour folle, absolument.
Le parler, vous l'avez évoqué tout à l'heure, de parler de soi au féminin est un trait fréquent de la sociabilité folle. Les garçons le font tellement dans ce roman que Mignon, arrêté par la police, quand on lui demande son métier, a envie de répondre « fille de salle
». C'est un peu étonnant parce que Mignon n'est pas une folle, justement. Ouais. Il y a quelque chose qui ne correspond plus tout à fait à l'image de notre époque, c'est l'opposition très forte entre les passifs et les actifs, qui est structurante. Donc, il y a les macs, qui sont des hommes sexuels actifs, mais qui sont extrêmement virils. Et puis, il y a d'autres personnages qui sont les folles. Donc, on a une très forte opposition entre le masculin et le féminin, qui est une opposition d'époque, qui structurait l'imaginaire de l'époque bien plus que la nôtre, de toute évidence.
Est-ce que, au fond de tout cela, de tous ces comportements de folles, de divines et des autres, il n'y a pas un grand besoin de tendresse? Je sais que ça a l'air un peu paradoxal de dire ça pour Jean Genet, mais divine s'offrait à la nuit afin d'être dévorée de tendresse par elle et jamais plus vomie.
Le besoin de tendresse, il est vraiment omniprésent chez Genet. Il y a une violence des relations entre les personnages, mais il y a aussi, c'est ce qui va même définir divine, une quête de la tendresse qui ne sera jamais satisfaite et qui va amener plus tard à une forme de détachement. Elle va se détacher, donc c'est sa forme de sainteté, puisqu'elle est sainte, nous dit le roman, même si elle commet parfois des crimes. Mais la quête de la tendresse est déjà très très sensible dans Notre-Dame des Fleurs. Et évidemment, c'est dans le roman suivant, Miracle de la Rose, qui transpose l'adolescence de Jean Genet, que cette question de la tendresse sera vraiment... traité de front, qui est peut-être le plus beau roman de Jean Genet, même si il est littérairement moins éblouissant que le roman inaugural. Le deuxième est le plus attachant, et notamment parce que le mot tendresse y revient, mais c'est surtout le mot amitié qui va hanter le deuxième roman, qui ne cesse de revenir, amitié. Et ce n'est pas l'univers de Notre-Dame des Fleurs.
Gilles Philippe, que vous a appris le personnage de Divine?
Sait-on jamais ce qu'on apprend d'un personnage? Je vais moi aussi dire des bottés en touche en disant des choses qui peuvent paraître très banales, mais qui sont pas forcées, qui le sont peut-être moins que les mots qui les portent. Une forme de liberté, sans aucun doute, et puis aussi une forme de dérision, d'éloignement, de détachement par la dérision. C'est un personnage du détachement. Il ne se passe rien dans le roman, disais-je, du moins pour ce qui concerne Divine, mais à cela près qu'elle va vieillir et se détacher. Et de ce point de vue-là, il y a une sorte de trajet que nous appellerions aujourd'hui un trajet spirituel, un peu religieux dans le texte, qui est une forme aussi de relation au monde et puis de une forme de sagesse, si on veut, si paradoxal que ça puisse sembler pour parler d'un roman qui est tout sauf sage.
Comme si j'ai assis. C'était Personnage en personne, le 176e.
Là-haut, paradis.
Réalisation, Clotilde Pivin. Documentation, Louisa Léo. Prise de son, Tahar Bouklifa.
Ma vie, le paradis acquis. C'était un grand jeudi. Tous les jours, de l'autre côté de la rue, mon paradis perdu. Soudain, quel est ce rayon éblouissant, élu parmi ces